Alors, bah déjà, bonsoir et merci d'être là. Je voulais préciser que je suis très contente d'être à Die parce que c'est particulier pour moi. C'est la Drôme, j'ai grandi pas loin. Et voilà, dans mon petit circuit, là, en France, c'est une destination qui compte pour moi. Et donc, merci de m'accueillir.
Avec plaisir.
Alors, les motivations pour écrire ce livre étaient multiples. Ça faisait longtemps que j'avais envie d'écrire un livre sur une thématique féministe autour du corps, du désir, mais je tournais un petit peu autour, je savais pas trop comment l'aborder. Moi-même, je fréquente depuis longtemps des communautés queer. Je me suis jamais considérée complètement comme une hétérosexuelle, en fait. Il y a toujours eu plein de choses qui m'ont gênée dans ce type de relation qui nous est dictée. Ce livre est né d'une discussion avec mon éditrice, Sophie Kaya, aux éditions du Faubourg, avec qui on avait déjà fait la bande dessinée et qui était éditrice auparavant aux éditions de Premier Parallèle, où j'avais publié en 2017 et où a publié également Lise Barnéou, ici présente. Et on parlait de ce sujet, on parlait de désir féminin et on se disait, on a l'impression que... On avait l'impression, voilà, il y avait une intuition de départ, on disait tiens, les femmes autour de nous ont l'air généralement plus ouvertes à des relations homosexuelles que les hommes. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est un cliché? Est-ce que c'est un cliché sexiste? Est-ce que c'est une représentation héritée du cinéma? Sur quoi ça se base? Et là, elle m'a dit, bah écoute, t'as qu'à aller voir en librairie, tu trouveras des réponses. Et si t'en trouves pas, bah t'auras qu'à faire l'enquête toi-même. Et donc l'après-midi même, je suis allée en librairie à Paris, en l'occurrence à la librairie LGBT historique de Paris, les mots à la bouche. Et là, on m'a dit, ben non, il n'y a rien. Sur la bisexualité masculine, il y a des choses. Mais sur la bisexualité féminine, il n'y a rien. Donc là, je me suis dit, bah tiens, c'est drôle comme... pour beaucoup d'autres sujets, les femmes ramassent les miettes et passent derrière. Et en fait, c'est moins documenté, on les a moins écoutées, elles sont moins visibles. Et j'ai commencé à chercher des sources et j'ai compris que c'était un véritable jeu de pistes et qu'en effet, il n'y avait pas d'ouvrage récent, complet, en français sur ce sujet. Alors, il y a eu quelques enquêtes aux États-Unis ces dernières années, ce qui m'a montré aussi que c'était un questionnement, que c'était un sujet d'étude. Et là, une fois que la décision a été prise de l'écrire, ça allait très vite. Je l'ai écrit en 9 mois. Il y a eu quelqu'un qui était... Raphaël Delclos, qui était en stage doc aux éditions du Faubourg, qui m'a permis, depuis Paris, d'aller fouiller des archives pour moi et d'aller à la BNF quand moi, j'étais à Berlin et que je ne pouvais pas me déplacer. Et donc, au fur et à mesure, au fil des mois, je me suis rendu compte que les traces... que finalement, il y avait des traces, il y avait des sources, mais il faut se donner la peine, en fait, de les écouter, de les voir et de les chercher. Et c'est valable, je pense, pour plein d'autres domaines.
Mm-hmm. Et écoute, ça aborde effectivement la question de la bisexualité, mais on pourrait élargir le concept de vivre fluide à une sexualité plus largement... Enfin, c'est assez proche de ce qui est nommé pansexuel. Mmh. Est-ce que du coup le terme fluide serait quelque chose, un terme plus joli que pansexuel?
Exactement. Ouais. C'est pour ça qu'il est sur la couverture. Alors il y a un chapitre dans lequel je me suis amusée à déconstruire ou analyser toutes les étiquettes qui existent aujourd'hui pour cataloguer les différents types d'orientation sexuelle. Il y en a plein, il y en a plus en plus. Mmh. Ce qui est assez drôle parce que le terme de bisexuel a longtemps été confondu. A longtemps été surtout utilisé en botanique, par les sciences naturelles, par la psychiatrie, et il désigne une orientation sexuelle depuis peu, en fait, depuis quelques décennies seulement. Et encore, on pense que ça n'existe pas vraiment, que c'est un état transitoire. Et depuis une quinzaine d'années, il y a plein de termes qui arrivent, notamment le terme de pansexuel, qui sort de la binarité de genre. Donc, voilà, parce que le terme de bisexuel comporte quand même le préfixe bi, qui sous-entend qu'il n'y a que deux genres, masculin et féminin. Mmh. Or, avec toutes les réflexions récentes, les apports des études de genre, on commence à comprendre que ce n'est pas le cas. Et donc, le terme pan utilise un autre préfixe qui signifie tout. Mais dans ce chapitre, je m'amuse aussi un petit peu, je finis par demander, mais finalement, est-ce que toutes ces étiquettes aujourd'hui ne finissent pas par reproduire ce qu'elles entendaient dénoncer, c'est-à-dire une sorte de classification de particularisme, de même qu'au XIXe siècle, un psychiatre autrichien, Krafft-Ebing, avait publié un ouvrage qui recensait, selon lui, toutes les perversions, tous les goûts sexuels humains. Donc voilà, je dis, ok, ça peut être important à un moment de la vie d'avoir besoin d'une étiquette, parce que ça peut être un projet politique, ça peut être une revendication. Mais attention à pas tomber dans cet écueil de vouloir cataloguer et voilà.
Est-ce que par rapport à cette question précisément, dans les témoignages que tu as recueillis, il y avait de l'écho et est-ce que c'était différent selon les générations ou...
Alors, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ça n'a pas du tout été difficile de trouver des témoignages. Ouais. En fait, une fois le sujet abordé avec beaucoup de femmes, ben, je sentais qu'elles avaient quelque chose à en dire.
Oui, puis il y a un panel très riche au niveau des âges.
Voilà, alors j'ai pas la c'est une recherche qui n'a pas la prétention d'être scientifique, mais j'ai interrogé 42 personnes, femmes et non-binaires, de 15 à 58 ans. Et c'était important pour moi aussi que ce soit des personnes qui ne vivent pas uniquement dans les grandes capitales, parce que ça aurait été trop facile aussi d'y trouver des gens, peut-être qui vivent leur sexualité plus ouvertement, dans des quartiers alternatifs de Berlin. Donc voilà, il y a des gens qui vivent dans toute la France et dans toute l'Allemagne, dans des petits villages à la campagne, dans des villes de taille moyenne, et qui sont de milieux sociaux différents. Mm. Et en fait, ça m'a permis de confirmer aussi ce que m'ont appris quelques études que j'ai trouvées au début et que j'ai trouvées absolument édifiantes et que je cite au tout début du livre. Alors, ce sont des études américaines récentes qui datent de moins de 15 ans, menées par des départements de psychologie ou de sociologie. Il y en a une qui a été menée par des sociologues en France en 2016. Et qui ont montré que, alors pour citer la plus parlante, sur un échantillon de plusieurs milliers de femmes, toutes orientations sexuelles confondues, plus de la moitié avait déjà ressenti du désir ou eu des fantasmes avec une autre femme, 60%. Sur ce même échantillon, 45% étaient déjà passés à l'acte. Et en revanche, seulement 2-3% se disaient bisexuelles ou lesbiennes.
Elles n'avaient pas besoin du coup de cette étiquette.
Alors il y a plusieurs interprétations possibles. Soit effectivement c'est la liberté de se dire je peux avoir un fantasme mais je suis pas obligée de passer à l'acte, et d'ailleurs peut-être tant mieux parfois. Et si je passe à l'acte, ça ne fait pas une identité que j'ai envie de revendiquer. Donc moi je trouve ça très bien que ces trois domaines qui puissent communiquer, mais qui soient pas, que l'un n'entraîne pas l'autre. Mais ça veut dire aussi sans doute que dans cet échantillon il y a plein de femmes qui n'osent pas qui n'osent pas se l'avouer à elles-mêmes, qui ressentent un désir mais qui ont mis le couvercle dessus et qui n'osent pas essayer ou qui n'ont pas l'occasion. Et puis après, parmi elles, des personnes qui ne vont pas être dans un contexte social et culturel qui va les mettre suffisamment à l'aise, peut-être, pour le dire, en parler. Donc ça soulève plein de questions, mais je trouvais ça, le 60% quand même m'a interpellée. Mm. Et c'est à partir de ces études que je cite dans le prologue du livre que je suis partie un peu à la recherche de traces, de témoignages, d'explications, si tant est qu'on puisse expliquer le désir. Enfin, c'est extrêmement vaste. Et donc voilà, j'ai étudié la mythologie, l'histoire, la littérature, le cinéma. J'ai fouillé dans les études de genre, dans la psychanalyse. La psychanalyse ayant repris le terme de bisexualité à partir de 1905 pour parler de bisexualité psychique, qui était un concept très très intéressant au début, puisque ça supposait qu'on a tous en soi un principe masculin et un principe féminin, mais qui cohabitent, qui est en colloque, en fait, et qui ne s'affrontent pas. Donc ça, je trouvais que c'était une idée très intéressante, mais évidemment, c'est tombé entre les mains de Freud, et donc c'est devenu un truc sexiste, c'est-à-dire que Freud a fait des principes et des motions psychiques plutôt connotées négativement des principes féminins, par exemple le refoulement, qui traduit comme une sorte de lâcheté, d'évitement, de mystère, etc., c'est féminin, tandis que la sublimation, c'est-à-dire la capacité de transformer une pulsion négative en quelque chose de grand, une œuvre d'art, ça c'est masculin selon Freud. Jung aussi s'est planté là-dessus. Il a parlé d'anima et d'animus. Enfin bon, je vais pas m'étendre là-dessus, mais l'anima aussi représentait un peu tout ce qui est pulsionnel, un peu néfaste, colérique, capricieux, tandis que l'animus c'est l'intellect, la grandeur d'âme, la raison. Donc je suis partie en fait à la quête de tout ce qui a fait ce terme, ses usages, ses pratiques à travers l'histoire.
Et tu abordais, enfin tout à l'heure tu disais qu'il y avait eu des livres sur la bisexualité masculine, mais est-ce que dans ces ouvrages ou dans ces réflexions, il y a la même remise en cause de l'hétérosexualité ? Parce que dans ton propos, tu lis justement aussi le fait de pouvoir affirmer la bisexualité et que c'est une forme justement de lutte féministe pour... Enfin, je fais des raccourcis un peu, mais est-ce que les ouvrages sur la bisexualité masculine ont aussi ce côté de cette volonté de casser la domination de l'hétérosexualité, ou est-ce que...
Alors, il y en a un auquel je pense que j'avais bien aimé, qui date de 2009, qui a été écrit par un homme qui s'appelle Karl Mengel, qui n'est pas chercheur, qui est traducteur. Je n'ai pas trop compris qu'il n'a rien publié d'autre. Il est traducteur de l'anglais. Ça a été publié aux éditions de la Musardine et ça s'appelle « Pour un traité, petit traité de l'ambivalence ». Et lui, en fait, sa conclusion s'attend vers la pansexualité. Enfin, en fait, son propos n'est pas féministe. Il remet pas vraiment en question la domination masculine, mais il remet plutôt en question la binarité de genre. En fait, il invite finalement à dépasser même le terme de bi pour parler plutôt de pansexualité. Mais voilà, c'est encore une fois un livre écrit par un homme qui s'adresse essentiellement aux hommes. Et les autres ouvrages que j'ai trouvés, je ne vais même pas vous en parler parce que c'est, c'était des nouvelles érotiques écrites par des hommes.
Nous, on a eu beaucoup de... Enfin, on s'est dit avec Emmanuel en le lisant que c'est un livre qu'on conseillera volontiers à des collégiens, collégiennes et lycéens, lycéennes, parce qu'il y a quand même beaucoup, on reçoit beaucoup aujourd'hui de jeunes lecteurs et lectrices qui se posent plein de questions sur tout ça et sur les questions de genre. Et on trouve dans ton livre un très bon support, parce qu'on a parlé un peu psychanalyse, mais il y a aussi un chapitre qui est... Enfin voilà, Mathilde écrit très bien, c'est assez drôle, c'est très facile, je dirais pas que c'est fluide, mais c'est très, très agréable à lire. Et il y a aussi tout un chapitre consacré à la représentation de la bisexualité, notamment chez les stars, etc., etc., et qui en montre bien les travers et l'utilisation. Donc c'est la partie un peu quand même... très visible de l'iceberg, mais c'est aussi très utile pour déconstruire tout ce qu'on peut voir, lire et entendre sur du très grand public. Donc c'est très agréable la manière dont tu as travaillé et dont tu as amené tout ça de manière très très accessible et très légère.
Merci.
Mais sur la représentation, il y a des choses qu'on ne voit plus en fait. Et il y a aussi ce dont tu parles justement aussi dans cet aspect représentation, il y a aussi beaucoup de confusion du coup entre l'homosexualité féminine et la bisexualité, et c'est parfois utilisé de manière très... il y a vraiment une utilisation volontaire d'un affichage ou d'une appartenance à un genre qui est assez...
Tu veux dire étrange. Dans les représentations ?
Oui, dans les représentations.
Bah, par exemple, tu disais des choses qu'on ne voit même plus. Moi, ce qui m'a vraiment fait grincer des dents, c'est quand je me suis mise en quête de scènes ou de personnages bisexuels au cinéma. Et donc, déjà, il y en a très peu. Et en fait, alors là, je parle de avant l'ère Céline Sciamma. Hein, donc, et en fait, c'est drôle parce que, enfin, je sais, on peut faire un petit sondage d'ailleurs, mais il y a des films, moi, je m'en rappelais même plus qu'il y avait une scène d'amour ou de baiser, de tendresse entre deux femmes. Par exemple, Mulholland Drive de David Lynch. Ouais, alors voilà, quand même, mais moi, j'avais zappé. Bon, peut-être j'avais refoulé, en fait, parce que ça me faisait quelque chose, donc je sais pas. Mais il y avait aussi, par exemple, alors Woody Allen, n'en parlons pas, mais même Black Swan avec Natalie Portman. Et en fait, j'ai remarqué, donc là, je cite à peu près une vingtaine de films, et dans tous ces films, il y a le même genre de mise en scène et de pivot narratif. Donc souvent ce baiser lesbien ou du moins ce rapprochement entre deux personnages arrive à un moment où l'intrigue a besoin d'un effet de suspense. Donc il y a toujours une sorte de basculement, comme si c'était Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Et donc souvent il y a une blonde, une brune, mais surtout voilà, ce qui m'inquiétait, c'est qu'il y a toujours un personnage un peu déluré, un peu plus expérimenté, qui va tenter, et un autre personnage qui va céder. Et j'insiste sur le mot céder, parce que j'ai fini par me demander, mais est-ce que ces personnages, ils sont consentants, en fait ? Voilà, dans Black Swan, c'est même une scène assez violente, enfin où il y a Eros et Thanatos en même temps, on ne sait pas si elles vont s'entretuer ou faire l'amour. Et en tout cas, ce sont jamais des scènes où on se dit, tiens, c'est un désir authentique. Il y a toujours le regard masculin en jeu, puisque bah, très souvent, ces films ont été réalisés par des hommes. Et puis, j'en viens même à me demander, voilà, les traces de cette domination, en fait, sur ces scènes-là. En tout cas, ce sont des scènes qui sont faites un peu pour exciter, mais qui mettent mal à l'aise aussi. Ouais. Ces personnages ne sont jamais complètement sereins, en bonne santé mentale, etc. Donc voilà, j'en ai parlé avec d'autres autrices et chercheuses qui me disaient, mais de toute façon, tu regarderas apparemment dans les séries. Moi, je regarde pas de séries. Là, j'ai fait un peu de recherche sur les séries, mais c'était difficile parce que j'avoue que j'en regarde pas. Dans les séries, apparemment, jusqu'à peu, tous les personnages lesbiens mouraient à la première saison. Et ça porte même un nom, je crois que ça s'appelle Dying Lesbian ou... Comme ça, en fait, ça permet aux plateformes et aux productions de cocher la case de la diversité, mais sans s'encombrer trop longtemps. Voilà, petite parenthèse fermée, mais le cinéma est assez...
Il n'y a pas de représentation.
Disons, Hollywood est assez Et puis après, sur la pop culture, je parle du phénomène Madonna, de toutes ces pop stars qui, on a l'impression, se sentent quasi obligées d'affirmer une particularité. Mais en fait, ce sont très souvent des coups marketing et ça s'appelle du queerbaiting. Baiting, ça veut dire appâter en anglais, qui sert à viser une audience, à appâter une audience toujours plus large. Donc voilà, en fait, c'est un phénomène vieux comme le monde. On a fait taire les femmes pendant très longtemps parce qu'elles ont été uniquement considérées comme des objets du désir et pas comme des sujets désirants. On a récupéré cette bisexualité comme pour en faire une perversion, quelque chose qui n'existe pas. Et puis maintenant que ça sort, attention, c'est le capitalisme qui vient se servir. Voilà. Donc il y a plein de petits pièges dans ces questions de représentation.
Il y a très peu de représentation globalement de la bisexualité. C'est vrai que c'est toujours. Je sais pas, vous avez des exemples de représentation de la bisexualité
En littérature, peinture, on a déjà pensé à quelques noms.
Il y en a un paquet, peinture.
Et comme le cinéma n'a pas été féminin pendant très 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 longtemps, c'est sûr que chaque fois qu'il y a une représentation soit de l'homosexualité, soit de la bisexualité à l'écran, c'est des hommes. Donc il y a effectivement une ambiguïté. Alors il y en a certains qui s'en tirent pas trop mal. Moi je trouve que dans Mulholland Drive, ils s'en tirent pas trop mal. Mais c'est souvent un regard un peu, je dis pas lurique, mais basé sur ce fantasme toujours. Et quand même, le premier fantasme des hommes, c'est de voir deux femmes faire l'amour.
Et qui est très ancien. Alors ça aussi, moi, je pensais que c'était un effet de mode, mais j'ai découvert qu'à l'époque où on échangeait des photographies érotiques sous le manteau, au tout début du XXe siècle, c'était le motif le plus demandé par les collectionneurs.
Absolument.
Et donc le plus produit. Monique Wittig, la philosophe française qui a écrit La pensée straight, en parle aussi. Elle dit, elle appelle ça le harem lesbien, le fantasme du harem lesbien. Ben voilà,
juste c'est à la fois un motif de scandale, début du XXe, et bon, je pense à Colette en particulier. Et il y a une magnifique affiche commerciale pour vendre de la littérature, je pense.
Et peu après la publication des Claudine, j'ai appris, notamment en faisant ces recherches, que le premier film gay de l'histoire, enfin, qui est considéré comme tel, c'est un film allemand qui date de 1919, qui s'appelle Différent des autres. Le réalisateur s'appelle Oswald. Et le personnage principal est une femme. Et elle s'appelle Anita Berber. C'était une cabaretiste de Berlin qui était bisexuelle et qui a été l'amante de Marlène Dietrich. Donc ça, c'était très amusant à faire aussi, alors pour surtout des périodes clés, évidemment, les années folles, le début du XXe avec Colette. Très souvent, il y avait une figure qui m'en emmenait à une autre, qui me conduisait encore à une autre personne, etc. Donc c'était un petit jeu de piste. Et puis c'est drôle de voir comme tout se recoupe, en fait. Parce que cette même Marlène Dietrich, quand elle était à Hollywood, elle a fait partie d'un club... très secret, il s'appelait le club de couture, où les femmes de Hollywood pouvaient se retrouver entre elles pour échapper au regard des hommes avant tout, hein, parce qu'Hollywood était déjà extrêmement normée. Et là-bas, elle a rencontré une Française qui s'appelait Suzanne Bollet, et Suzanne Bollet a ouvert 3 cabarets à Paris. Et c'était les premiers cabarets, enfin peut-être pas les premiers cabarets lesbiens, mais c'était les grands cabarets lesbiens de l'époque à Paris. Et là-dessus, on a retrouvé des rapports dans le registre des femmes galantes qui est consultable aux archives de la préfecture de police de Paris. Et là, on sent dans les rapports des policiers que donc ils avaient ces femmes à l'œil parce qu'elles étaient considérées comme étant plutôt dangereuses. Ils attendaient qu'un truc, c'était pouvoir les accuser de prostitution pour pouvoir voilà. Et on sentait surtout dans le ton des rapports quand même une fascination qui émergeait. Enfin, c'est-à-dire ils étaient railleurs. Bon, c'était des rapports de police, donc c'était pas, il y a pas beaucoup de poésie, mais quand même on sentait qu'ils se faisaient tout petit, quoi. Qu'ils se disaient oh là là, mais qu'est-ce qu'elles arrivent à faire que je suis incapable de faire. Enfin, il y avait un peu ce ton-là, donc c'est assez mignon à lire finalement aujourd'hui. Ouais. Ben, merci beaucoup
et bravo.
Merci.